Je voudrais dire un mot, donc présenter rapidement Alexis. Je le remercie d'être présent parmi nous. Nous nous connaissons bien, nous avons fait le bilan, nous nous connaissons depuis 25 ans, puisqu'il a été mon élève en KNBL au lycée du Parc, où j'ai pu apprécier toutes ses qualités, à la fois intellectuelles et humaines. C'est un garçon absolument extraordinaire. Donc je le remercie d'avoir accepté notre invitation, sans hésiter une seconde. Donc, il est actuellement directeur de recherche au CNRS, en sociologie. Il a travaillé sur différents thèmes qui renvoient aux transformations de l'État et à la sociologie des inégalités. Il a longtemps travaillé sur la production des politiques d'immigration, donc encore quelqu'un qui a travaillé sur ce thème, en s'intéressant aux procédures mises en œuvre concrètement, circulaires, instructions formelles et informelles, jusqu'au pouvoir des guichets sur la gestion des cas, conduisant à une véritable, entre guillemets, politique des guichets dans l'accueil des populations de l'immigration. Il a publié à cette occasion plusieurs ouvrages, notamment « Étrangers à la carte » en 2005 et « Accueillir et reconduire, enquête sur les guichets d'immigration » chez Raison d'agir en 2008. Depuis quelques années, ses recherches portent sur les politiques fiscales et sur les formes contemporaines de l'inégalité devant l'impôt. C'est à cette occasion qu'il a publié plusieurs ouvrages. Un que je vais citer en 2015, « L'impunité fiscale ». Comment l'État brade sa souveraineté, avec Katia Vandenfeld à la découverte. Et il vient de publier un ouvrage prémonitoire, je dirais, « Résistance à l'impôt, attachement à l'État » au Seuil en 2018, que je vous conseille vivement. J'ai eu le plaisir de le lire avant cette conférence et avant le surgissement du mouvement social qui nous interroge beaucoup, les Gilets jaunes. Mais ce que je peux dire, c'est que ce mouvement, du coup, ne m'a pas surpris, puisque tout est là. Je voudrais souligner aussi la rigueur de ces méthodes, avant de me taire, qui croisent collecte de statistiques, et un appareil statistique important, observation, interview, immersion de longue durée. Donc vraiment, toutes les méthodes de la sociologie sont déployées pour aboutir à quelque chose d'une très grande clarté, par ailleurs, on peut lire ce livre très facilement. Voilà, donc Alexis, je te laisse la parole. Voilà.
Merci beaucoup, Bernard. Voilà, alors je vais présenter rapidement l'ouvrage, parce que c'est une des premières fois, c'est pas la toute première fois, mais c'est une des premières fois, exactement la deuxième, en fait, parce que l'autre fois, c'était devant des doctorants de Paris 1, que je présente l'ouvrage devant un public averti, comment dire, de sociologie, de sciences sociales, et où on a le temps et où je peux présenter les slides. Donc pour moi, c'est très important d'avoir vos retours, vos avis, vos suggestions, vos critiques, même si, bon, le livre, il est ce qu'il est maintenant, mais c'est un sujet sur lequel je continue à travailler, je continue à réfléchir, je sais qu'il y a des imperfections, et donc je compte aussi sur vous pour améliorer. Alors voilà, peut-être comme point de départ, le point de départ de ma réflexion dans ce livre, on pourrait presque prendre l'actualité éditoriale de cet après-midi, la publication par Le Monde d'un grand sondage sur les Français et l'impôt, voilà, et d'ailleurs qui reprend un sondage qui avait déjà eu lieu il y a 5 ans et qui m'avait déjà un peu interpellé, voire carrément énervé en fait, sur cette idée de contribuable, interchangeable, qu'il y aurait un rapport des Français à l'impôt. Après, peu importe ce qu'on met derrière, on reviendra. Et voilà. Et comme moi, j'étais formé à la sociologie et que j'étais très sensible à la question des inégalités sociales, à la question des positions sociales, je voyais bien que ce sujet-là, en fait, il avait pour particularité d'être très investi par des économistes, finalement assez sensibles aux questions tranches de revenus, éventuellement patrimoine, mais pas au-delà. Des juristes qui, eux, ne s'occupent pas toujours de questions d'inégalité, et finalement complètement délaissés par la sociologie, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, mais en tout cas, intéresser assez peu les sociologues. Et donc, du coup, on était avec cette espèce de présentation d'un rapport à l'impôt complètement class blind, on pourrait dire, comme les Américains nous accusent d'être souvent colorblind, là, en l'occurrence, complètement indifférent aux différences sociales et aux classes sociales. Et donc, Donc c'est ça un peu mon point de départ, c'est casser un peu cette notion de contribuable en introduisant la question de la position sociale, la question de l'appartenance territoriale, la question de l'appartenance générationnelle et aussi la question de la distance à l'État. Évidemment, tout ne se résume pas à la position sociale ou à la classe sociale. Quand on parle d'impôts, l'autre intuition que j'avais et à laquelle je tenais pas mal après avoir fait pas mal d'enquêtes, notamment dans l'administration fiscale, c'est l'idée que la question de la distance à l'État, j'y reviendrai, à la fonction publique, est aussi évidemment très importante. Je dis aussi, alors là, en guise de remarque préliminaire, que là, je vais parler d'impôts. Évidemment, ça ferait hurler des juristes. Pourquoi ? Parce que je prends l'impôt au sens très, très large, au sens des enquêtés, au sens profane. C'est-à-dire, quand on fait des entretiens sur l'impôt, en fait, c'est tout ce qui est prélèvement, en fait. Et les enquêtés mélangent et disent, derrière l'impôt, ils mélangent taxes, impôts, prélèvements, cotisations sociales. Enfin, on pourrait faire une longue liste. Et voilà. Et donc là, c'est l'impôt au sens très très large, c'est-à-dire en fait tout ce qui est prélevé. Et toujours dans cette partie un peu préliminaire, mais peut-être pour s'entendre sur les termes, une des choses sur lesquelles j'insiste aussi en introduction, c'est le fait que là aussi, on est un peu gêné dans les débats publics parce qu'il est beaucoup question de consentement à l'impôt, de fragilisation du consentement à l'impôt. Et en fait, derrière ce terme, il y a deux choses qui sont assez différentes et qui, à mon avis, il faut distinguer derrière ce terme générique. C'est d'abord un sens pratique, une acceptation pratique de l'impôt, ce que les Américains appelaient le tax compliance, c'est le civisme, ce qu'on pourrait dire, en fait, pour être plus précis, le civisme fiscal, c'est le fait de remplir ses obligations. Et ça, on peut dire qu'en France, il n'y a pas de crise du civisme fiscal. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que on a la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, publie tous les ans, avec des cocoricos dans son rapport statistique, des taux de civisme fiscal absolument albanais, 95%, et qui renvoie... Alors après, on peut critiquer, etc., mais qui renvoie quand même à une vraie réalité, qui est que globalement... bon, évidemment, la fraude fiscale est très importante sur la TVA, etc., etc., mais que globalement, du point de vue des contribuables, l'écrasante majorité des contribuables remplissent leurs obligations fiscales, puisque ce taux, il est calculé essentiellement sur l'impôt sur le revenu. Et puis, voilà, et il y a l'acceptation politique de l'impôt. Et le fait de considérer que l'impôt est juste, qu'on l'accepte politiquement et qu'on considère qu'il ne doit pas être contesté ou que l'usage qui en est fait ne doit pas être contesté. Et ça, évidemment... c'est beaucoup plus problématique et c'est évidemment cette deuxième dimension, assez différente de la première, qui est en cause. J'insiste là-dessus. Alors je prends un exemple très rapide pour l'incarner tout de suite. C'est la Bretagne et la Corse. Parce qu'en Bretagne, alors pour ce livre, j'y reviendrai, mais j'ai fait une enquête un peu, un focus et une enquête qualitative un peu poussée en Bretagne, dans le Finistère, la région, une région très particulière dont je pourrais reparler tout à l'heure. On a un très fort civisme fiscal, au-dessus de la moyenne nationale, en fait, au-dessus des 95%, ou pour des raisons de rapport au droit, de tradition catholique, pour tout un tas de raisons qui seraient difficiles à expliquer, mais très fort civisme fiscal, et en même temps, très forte tradition de contestation politique de l'impôt, avec déjà crié la question des bonnets rouges au XVIIe siècle, les agriculteurs plus près de nous... dans les années 60, Alexis Gourvennec comme figure héroïque de la résistance à l'État. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans les années 70. Enfin bref, on peut aller jusqu'au bonnet rouge comme ça, 2013, où le Finistère se mobilise contre l'écotaxe. Et donc on a comme ça en Bretagne à la fois un très fort civisme fiscal et en même temps une très forte tradition d'opposition politique à l'État central et opposition à l'impôt. Et puis la Corse, où là... on a, alors là, j'utilise pour pas faire d'ethnocentrisme ou de, je réutilise un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui dit qu'on a quand même un civisme fiscal en dessous, très en deçà de la moyenne nationale, et en même temps pas de mobilisation politique contre l'impôt, évidemment de mobilisation contre l'État, mais plutôt sur pas spécifiquement sur l'impôt. Et donc je trouve que ça fait mettre en miroir ces deux cas-là, ça fait comprendre en tout cas. La différence entre ces deux dimensions du consentement à l'impôt. Et puis, une question, un paradoxe, il y en a plusieurs que j'essaye de soulever dans ce livre. Moi, j'aime bien essayer de commencer les livres, et en général, je commence un peu les enquêtes comme ça, sous forme d'énigmes. pour que les gens aient envie de continuer à lire et lire la suite. Souvent, c'est que depuis 30 ans, on assiste à une envolée des inégalités de revenus et de patrimoine, qui est pour le coup assez bien documentée par les économistes. Et en même temps, depuis 30 ans, on assiste à une montée en puissance, une critique de plus en plus virulente des prélèvements. Alors évidemment, si on la remet en perspective historique, c'est pas si nouveau, etc. Ça a déjà eu lieu, l'Ancien Régime, la Révolution française, elle-même une révolte fiscale, etc. Mais quand même, c'est-à-dire que sur la période récente, on a une montée en puissance de contestation politique de l'impôt. Et après tout, l'actualité vraiment immédiate ne me donne pas complètement tort. Et cette contestation, elle vient, et là je vais y revenir, hein, de plus en plus de populations pour lesquelles on ne s'attend pas à ce qu'elle conteste l'impôt. Je vais y revenir. Alors, ce n'est pas une situation spécifique à la France. L'avantage du PowerPoint, c'est qu'on peut mettre des photos. Mais en fait, il y a des mobilisations. Alors, ce n'est pas des mobilisations spécifiques centrées sur l'impôt, toujours. C'est souvent des mobilisations qui sont à la fois pas mal en Europe du Sud, mais quelque chose qui devient assez important, c'est contre l'austérité, contre la déglaration des services publics et contre l'inégalité fiscale. Souvent, c'est les trois, et on en trouve en Espagne, en Grèce, au Portugal, dans les années 2010, notamment après la crise de 2008, en fait. Et donc, pour le coup, on peut dire que la France, est, même si c'est... Enfin, voilà, c'est compliqué de les mettre tous dans le même sac, évidemment, parce que chacune a ses spécificités. Les indignés d'Espagne ne sont pas les mêmes du tout, etc. Mais quand même, c'est assez frappant que dans toutes ces mobilisations, il est question d'impôts, il est question d'injustice fiscale. Et donc, vous voyez que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'allais jusqu'à la mobilisation contre l'écotaxe en 2013, et que maintenant, ça y est, on peut rajouter la mobilisation de 2018 qui est en cours et continue. Alors, un mot sur... faut pas que je sois trop long, mais un mot quand même. Bernard on a dit une phrase, mais je vais juste m'apesantir un tout petit peu là-dessus, sur le matériau empirique. Donc en fait, l'essentiel de ce que je vais vous présenter ici, c'est des résultats statistiques d'une enquête quantitative qui constitue un peu le cœur du matériau, même si c'est loin d'être le seul, mais qui constitue, on va dire, l'armature du livre. C'est une enquête que j'ai pu conduire grâce au dispositif ELIPSE, étude longitudinale par Internet pour les sciences sociales, qui est piloté par toute une équipe... à laquelle participe quelqu'un de pas très loin d'ici, je crois, Pierre Merclet. Et donc, l'avantage de ce dispositif, c'est le suivant, c'est que c'est un dispositif qui avait beaucoup d'argent au départ. Là, je ne sais pas s'il va continuer à en avoir, mais en tout cas, au départ, il avait beaucoup d'argent. Et donc, ils ont fait un tirage sur la base du recensement. Ils ont tiré un échantillon de 3000 personnes représentatifs sur le recensement. Et à ces 3000 personnes, 3000 logements en fait, mais disons 3000 personnes, logements et personnes, sur le recensement, on a acheté une tablette, un abonnement Internet, et on leur a proposé cette tablette et cet abonnement, en échange de quoi ils acceptaient de répondre à un questionnaire par mois. Et ensuite, on demande au laboratoire, ou aux équipes de recherche plutôt, de candidater avec un questionnaire. Et donc nous, on a candidaté à ce dispositif, et on a été retenus. Et l'avantage en plus, c'est qu'on a été retenu. Alors sur le dispositif pilote, on était à la toute fin, donc on avait la fin de l'échantillon. C'était un peu, il restait plus grand monde et voilà. Mais pour le dispositif de l'échantillon maître, on était un peu en début de file, et donc on a eu de la chance. En fait, on a pu passer ce questionnaire donc par internet sur tablette auprès de 2700 personnes. Donc ça fait un taux d'acceptation du questionnaire évidemment très très élevé, beaucoup plus élevé qu'habituellement, mais c'est évidemment lié au dispositif. Hein, si les gens arrêtent de répondre aux questions, aux questionnaires qu'on leur donne, ils perdent la tablette, ils perdent l'abonnement, donc ils sont motivés. Il y a quand même des gens qui arrêtent, mais donc du coup après on refait des pondérations pour que ça soit vraiment... vraiment représentatif. Bon, voilà. Et donc, c'est des gens qui sont... Là, le gros avantage par rapport au sondage, tout à l'heure, je parlais du sondage du Monde, c'est... Bon, d'abord, on essaye de poser des questions qui nous semblent plus conformes à ce qu'on sait faire en sociologie, et notamment d'insister sur les pratiques, mais aussi, un des gros désavantages maintenant, enfin, défaut des sondages, c'est que comme c'est des panels Internet, ils touchent, en fait... Alors, évidemment, ils classifient en fonction des CSP, ils ont des... voilà, mais en fait, ils ne touchent que les gens qui ont Internet, qui savent utiliser Internet, qui ont déjà Internet et qui sont déjà engagés dans un dispositif. Donc voilà, donc même s'il peut y avoir dans, dans ces dispositifs des classes populaires, évidemment, elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques que une population qui est représentative du point de vue du recensement. Et c'est ça le gros avantage de ce dispositif. C'est d'abord que le gros échantillon et aussi le fait qu'on n'a pas ce biais qui existe maintenant dans tous les sondages, puisque tous les sondages ne font plus que de l'Internet et font plus du tout de sondages par téléphone. Voilà. Ça, c'était pour vendre un peu le dispositif et vous convaincre que c'est... Et du coup, d'ailleurs, dans les taux, parce qu'il y a des réponses qui sont semblables, on a plus de contestation de l'impôt, parce que je pense qu'on a des classes populaires qui sont plus représentées, en fait. Une enquête qualitative, j'en dis quelques mots. Je l'ai beaucoup utilisée pour comprendre les chiffres. Et puis, j'ai beaucoup utilisé des entretiens. Donc, j'ai fait pendant 4 ans, en fait, des enquêtes au guichet des finances publiques. Donc, c'est les services, ce qu'on appelait avant les services des impôts. Au guichet des URSSAF, où là, on trouve pas mal d'indépendants, de chefs d'entreprise qui viennent pour leurs cotisations sociales. Et au régime social des indépendants, où là, on trouve une autre population. Beaucoup plus les petits indépendants, pas les chefs d'entreprise, mais vraiment les chauffeurs de taxi, les libraires, voilà, ce qu'on pourrait presque appeler les classes populaires indépendantes. Mais voilà. Et puis une monographie sur le Finistère. Pourquoi le Finistère ? Parce que donc 2013, mouvement contre l'écotaxe. Je ne vais pas beaucoup en parler ici, mais on pourra en reparler dans la discussion. C'est un mouvement que j'avais trouvé très intéressant, précisément parce que c'est un peu un défi à la sociologie et à l'histoire des mouvements sociaux, puisque la particularité de ce mouvement, c'est qu'il est parti d'agriculteurs, de la fédération départementale, de la FDSEA, des agriculteurs. Ça, c'est pas très original. Mouvement contre l'impôt, contre les taxes, avec une alliance, en fait, FDSEA-MEDEF local, patronat local, pas très original là aussi, qui obtient un rabais de 50% de l'écotaxe dans un premier temps, puis dans un deuxième temps qui se radicalise et qui veut obtenir plus, et donc qui se relance dans la mobilisation en mai 2013 pour obtenir plus, et puis dans un département où toute l'agroalimentaire est sinistrée, des salariés totalement désespérés de plan de licenciement en plan de licenciement de perdre leur emploi, qui se disent à un moment donné, de toute façon... on est tellement sous l'eau, on est tellement dans la merde, on n'a tellement plus rien à perdre que on va s'allier à ce mouvement-là pour défendre, en gros, sur le mot d'ordre, et c'est celui qui va rassembler tout le monde, travailler et vivre au pays. Et donc ça va donner un mouvement qui, par certains côtés, mais seulement par certains côtés, ressemble un peu à celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un mouvement quand même assez improbable où on a, dans une même mobilisation, des agriculteurs, des petits patrons, des indépendants, des syndicalistes de la CGT, des usines de Doubs, de GAD, des syndicalistes de FO. Voilà. Et ça m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai fait pas mal d'entretiens. Et ça a été un peu aussi un prétexte. C'est compliqué de faire parler les gens sur l'impôt, mais évidemment, là, c'était un peu, une bonne entrée sur le terrain pour avoir cette diversité-là. Voilà. Bon, faut que j'accélère un peu. La répartition en 3 classes, j'en dis un mot. Du coup, ça va me permettre de renvoyer à l'autre livre, même si c'est pas exactement la même chose, parce qu'on a un peu modifié les choses quand on raisonne au niveau européen. Là, on a vraiment, là pour le coup, j'étais pas seul, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans un projet collectif sur la question des pratiques et rapports ordinaires face à l'État. En gros, j'ai pris les classes. On a les catégories socio-professionnelles dans cette enquête. J'ai pris les ouvriers, les employés. On les met dans les classes populaires. On fait un gros groupe. Et on a, en effectif pondéré, 49% de la population. Ensuite, on a les classes moyennes. Donc voilà, j'ai mis les professions intermédiaires, les professions administratives, techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise, exploitants d'école et artisans commerçants, 32%. Ça, c'est les classes moyennes. Et les classes supérieures, un ensemble finalement très large. Mais à mon avis, qui est intéressant quand même en tant que tel, c'est-à-dire en gros, chef d'entreprise, profession libérale, cadre du privé, cadre du public, cadre de la fonction publique, bon, avec ensuite des ventilations qu'on peut faire sur les indépendants, mais en gros, c'est ça. J'insiste là-dessus parce que donc, c'est 19%, les classes supérieures, c'est beaucoup, c'est pas du tout... je le dis tout de suite, les classes supérieures à la Piketty, les 1%, les riches de riches, les dominants, je ne dis pas que... Enfin, c'est intéressant de travailler sur ces 1%, mais là, ce n'est pas cela, en fait, du tout. Le premier graphique, première source de surprise, et je le savais un peu, mais j'ai été surpris de voir à quel point c'était vrai dans les chiffres. J'ai posé une question vraiment très, alors pour le coup très sondagière, justement aussi parce qu'elle avait été posée par des collègues en 2010. J'ai repris comme ça pas mal de questions parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur historique quand on travaille sur le rapport à l'impôt, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires, enfin il n'y a pas beaucoup d'anciennes enquêtes sérieuses sociologiques sur la question de l'impôt. Donc, mais on en a le peu qu'on a, j'ai essayé de les prendre. Et donc il y avait notamment une enquête de 2013 de Michel Forcé qui posait cette question: est-ce que vous trouvez que la France est un pays où on paye trop de charges et trop d'impôts? Et est-ce que vous trouvez que vous payez trop de charges et trop d'impôts? Bon, en fait, on a fait les deux parce que c'est important de faire varier la formulation. Ça ne change pas grand-chose. Là, je vous ai mis « Est-ce que la France est un pays où on paye trop de charges, trop d'impôts ?» Donc la surprise, c'est que en rouge, c'est ceux qui sont tout à fait d'accord. Et on trouve sur la partie droite, là, on a les classes populaires, là, on a les classes moyennes, là, on a les classes supérieures. Et le graphique rouge, c'est ceux qui sont tout à fait d'accord avec l'idée qu'on paye trop d'impôts. Et donc on voit que c'est au sein des classes populaires que le rectangle rouge est le plus haut, où on arrive à près de 60%, en fait. Et le deuxième, c'est selon la zone de résidence, parce que c'est vraiment les deux variables. Le mouvement des Gilets jaunes n'avait vraiment pas du tout commencé quand j'ai écrit ce livre, hein, je le précise. Mais ce qui est frappant, c'est l'opposition entre Paris, où évidemment ça recoupe des différences sociales, on s'en doute, mais quand même, qui est plutôt le plus faible rectangle rouge. Et tout là-bas, en fait, là où c'est le plus haut, c'est les petites villes, les villes de 2000 à 20 000 habitants, et la zone rurale, en fait. Voilà, donc une double dimension d'emblée dans les résultats sociaux et territoriaux. Beaucoup de questions qui ressortent. Alors là, c'est vraiment une interaction entre l'exploitation statistique et les entretiens. Je ne vais pas du tout présenter les entretiens, et comme ça, je vais renvoyer au livre si le qualitatif vous intéresse. Mais je vais plutôt présenter les résultats en grande tendance. Et puis, évidemment, le commentaire que j'en fais, il est quand même pas mal nourri de pas mal d'enquêtes qualitatives. Juste sur la question du sentiment d'injustice fiscale, on a posé la question, au lieu de poser la question en général, on l'a posé impôt par impôt. Et ça dit déjà pas mal de choses sur le fait qu'il n'y a pas de règle, en fait. On pourrait penser que les impôts les plus anciens... Il y avait une vieille théorie comme ça qui traînait, que les impôts les plus anciens sont les mieux acceptés. Bon, c'est pas vrai, parce que la fiscalité locale, c'est la plus ancienne. Et on voit qu'elle est considérée quand même comme... elle est en milieu de peloton, en fait. Hein, là, c'est tout... Alors là, pour le coup, c'est tout contribuable confondu. Et après, on va voir par catégorie sociale. Mais elle est en milieu de peloton, donc c'est pas ça. On pourrait penser que c'est l'impôt progressif. Alors ça, c'est presque vrai. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, c'est celui qui est considéré comme le plus juste, vous voyez, par 70% des contribuables, et il est considéré comme juste. L'impôt sur la fortune, à l'époque, il était encore en vigueur, 67%. Et puis, donc on pourrait se dire, en fait, l'impôt progressif est considéré comme plus juste. Ce qui est à peu près vrai, mais pas complètement, si on veut bien prendre l'impôt sur les successions, les droits de succession, qui mériterait à soi seul et un développement. Et j'y consacre une partie du dernier chapitre parce que c'est un impôt compliqué, en fait, mais qui est très intéressant, qui est le plus décrié, en fait, y compris par les classes populaires, mais pas seulement. Et il est considéré vraiment, alors là, vous voyez, hein, avec un taux record de sentiment d'injustice, alors que c'est un impôt progressif, c'est un impôt beaucoup de ménages en sont exemptés du fait de la faiblesse du patrimoine. Donc voilà, donc c'est pour dire que l'impôt, c'est compliqué et que c'est pas une affaire de contribuables rationnels où, comme on est en bas, on trouve que c'est bien les impôts progressifs et plus on monte et voilà. Juste un mot sur la CSG quand même, parce que ça aussi, c'est un impôt important, récent. Donc 1990, qui est monté en puissance, hein, je ne rappelle pas, parce que comme je sais que je suis devant un public averti, vous connaissez tous non seulement ça par cœur, mais en plus, j'imagine l'enseigner, mais qui est monté en puissance en partant de 2% en arrivant à ce qu'il est aujourd'hui, des augmentations récentes. Ce qui est intéressant, là, c'est les 19%, en fait. C'est-à-dire de ne sait pas. Là, ce qui est évidemment important, c'est... dans les ne sait pas, il y avait à la fois ceux qui n'ont pas répondu à la question... Ceux qu'on dit « je ne sais pas », ceux qu'on dit « je ne connais pas cet impôt », bon, là, je les ai groupés dans les « ne sais pas » en disant que c'est à peu près pareil quand même, mais ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose sur la CSG, sur le fait que, par exemple, que le gouvernement ait choisi d'augmenter cet impôt-là. C'est bien vu, on a envie de dire. Hein, c'est celui qui est le plus méconnu. Dans les entretiens, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens où... J'ai testé ces questions en leur disant, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt juste? Est-ce que vous trouvez que la CSG, c'est un impôt juste? Et beaucoup me disent, ah non, la CSG, moi, je ne paye pas ça. Je ne vous apprends rien en vous disant que...
Vous vous rappelez que c'est plus que l'impôt sur le revenu?
Ah oui, et qu'en termes de recettes fiscales, c'est plus... Voilà, ça représente significativement plus que l'impôt sur le revenu. Hein, de mémoire, c'est presque... 90 milliards d'euros. Bon, enfin bref. Donc voilà, la CSG, ça recoupe. Enfin, 97 milliards d'euros, je n'ai pas dit de bêtises. Ouf. Cette forte proportion des ne sait pas est complètement attestée dans les entretiens aussi avec des gens. Enfin voilà, plein d'anecdotes, mais là je ne peux pas les dire, donc j'avance vite. Alors juste un petit temps pour revenir sur les classes sociales. Impôt par impôt. Ce qui est frappant, en fait, donc là aussi, c'est en vert, c'est ceux qu'on trouvait que c'était juste. En rouge, injuste. En jaune, ne sait pas. À chaque fois, on a classe populaire, classe moyenne, classe supérieure. Là, j'ai mis la redevance télévisuelle, la CSG, la taxe foncière, la TVA et l'impôt sur le revenu. Ce qui est frappant, en fait, c'est que pour tous les impôts, quels qu'ils soient, les classes populaires trouvent que l'impôt est... sont plus nombreuses à trouver que l'impôt est injuste que les classes supérieures, en fait, quel que soit l'impôt. Ça, c'est un premier résultat assez important. Et ensuite, bon, évidemment, avec des taux qui varient selon les impôts, on retrouve cette idée-là. Et l'idée que là où il y a le plus de vert, c'est l'impôt sur le revenu. Et là où il y en a le moins, en fait, c'est ces deux derniers. C'est la CSG, la contribution sociale généralisée, la redevance télévisuelle. Mais ça, c'est quelque chose d'assez important et qui est étayé pour définitivement mettre un peu un pavé dans la mare du modèle du contribuable rationnel. C'est... là, pour le coup, j'ai joué le jeu des économistes, parce que je sais qu'ils sont des fois un peu, frileux sur les classes sociales, un peu, ils disent, ouais, bon, on ne sait pas très bien ce que c'est. Prenons les tranches de revenus par unité de consommation. Donc le revenu par unité de consommation, on prend le revenu du ménage et on le pondère de façon à prendre en compte le fait s'il y a des enfants, le nombre de personnes dans le ménage, etc. Donc on part à moins de 1650 euros par mois et on arrive à 3200 euros ou plus. Donc on a une belle échelle de revenus. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que c'est complètement linéaire, c'est-à-dire que plus on grimpe dans la hiérarchie des revenus et plus on trouve que l'impôt sur le revenu est juste. Alors que c'est un impôt progressif et qu'il est plus important pour ceux qui ont plus d'argent, en fait. Hein. Donc voilà, donc ça montre... Alors on peut le faire aussi différemment sur le côté aussi, sur la vieille théorie qui traîne. En fait, les impôts qu'on aime, c'est ceux qu'on ne paye pas. Si on le fait, évidemment, en fonction du fait qu'il y a un membre de... La personne est membre d'un foyer non imposable ou d'un foyer imposable, on retrouve la même opposition, c'est-à-dire, évidemment, qui recoupe en partie l'échelle des revenus. Ça pour dire qu'on a besoin d'entretiens... C'est pour vous convaincre d'aller voir les entretiens et d'aller lire le livre, évidemment, mais parce qu'on a besoin de comprendre ces bizarreries statistiques. Et ça, c'est vraiment... les entretiens qui permettent de le faire. Alors, un mot quand même sur les droits de succession, parce que j'en ai pas dit grand-chose, mais là aussi, en fait, d'une certaine manière, c'est pour complètement achever la théorie du contribuable rationnel. C'est que si on regarde par patrimoine médian, alors j'ai pas pu avoir le patrimoine dans l'enquête, mais en fait, si on reprend par catégorie socio-professionnelle et qu'on prend les niveaux de patrimoine par rapport aux droits de succession, c'est très frappant de voir qu'on a des très forts taux de gens qui pensent que l'impôt sur les successions est injuste. Vous voyez, notamment les employés qui pensent à 77% que cet impôt est injuste. Alors évidemment, bon, il faudrait préciser, mais je pourrais en dire quelque chose si vous voulez dans la discussion. Alors que le patrimoine médian, il est très, très, très en dessous du seuil de déclenchement qui doit être à 100 000 euros. Enfin, avec les... on en est très, très loin, quoi. Une des séries d'explications qui vient, pour le coup, qui est une manière de concilier l'enquête qualitative et l'enquête qualitative, c'est la question de l'expérience de l'administration, l'expérience du contact avec l'administration fiscale. c'est l'idée que, ça c'est une hypothèse forte à la fois de cette enquête, de ce livre et de ce projet de recherche dont j'ai parlé trop rapidement tout à l'heure, qui est un projet sur plusieurs années qui porte sur la question des pratiques et des représentations ordinaires face à l'État. C'est l'idée que justement pour aller un peu contre les sondages ou les grandes enquêtes statistiques européennes ou internationales qui enregistrent uniquement des représentations, c'est l'idée de penser ensemble les pratiques et les représentations. Si vous vous souvenez ce que j'ai présenté au début dans l'introduction, en disant que le consentement à l'impôt, il y avait deux versants. Il y avait un versant pratique et il y avait un versant un peu politique ou symbolique. Voilà, c'est l'idée de tenir ensemble ces deux dimensions-là et de les mesurer et de voir comment elles évoluent conjointement. Et donc ça passe par comment des observations, et il y en a pas mal dans le livre, des observations d'interaction au guichet. En fait, comment les gens s'y prennent pour contester l'impôt, et puis des questions dans le questionnaire statistique sur les pratiques, et pas seulement sur les représentations, pas seulement sur est-ce que vous trouvez l'impôt est juste, mais qui c'est qui remplit la déclaration d'impôt, et comment vous faites, et est-ce que vous la corrigez, est-ce que, voilà, des questions qui, bon, évidemment, sont de l'ordre de questions discursives, mais qui renvoient quand même à des pratiques et pas à des représentations. Bon, alors là, la chose est un peu jolie, on s'éloigne un peu des questions de justice fiscale, mais sociologiquement, je trouve ça quand même très, très impressionnant. Donc si on limite au couple, homogame pour garder les grandes distinctions entre couple, entre classe populaire, classe moyenne et classe supérieure, on voit que globalement, alors la question du remplissage de la déclaration de revenus, elle est un peu plus masculine que d'autres tâches administratives, mais que en fait il y a une très forte variation en fonction de la position sociale du couple. Donc là, c'est un peu biaisé parce que j'ai retenu pour les besoins de la démonstration uniquement les couples homogames. Mais en fait, quand on prend des couples hétérogames, c'est pas très différent. Ça introduit beaucoup de complexité et ça affaiblit la lisibilité. Mais là, si on limite aux couples homogames, on voit que plus on grimpe dans la hiérarchie sociale et moins les femmes s'occupent de la déclaration de revenus, en fait. C'est-à-dire que dans les couples de classe populaire, c'est 50% des femmes, et chez les classes supérieures, c'est 24%. Et à l'inverse, évidemment, l'homme, alors sachant que ça fait pas... Enfin, les plus statisticiens d'entre vous diront que ça fait pas 100%. En fait, il y avait la possibilité de... Enfin, dans pas mal de tableaux, il y avait la possibilité de mettre plusieurs. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis les deux. Enfin, j'ai sorti ceux où il y avait mis les deux pour que ça soit plus clair. Mais parfois, il y a des réponses multiples. Donc ça, voilà, c'est une première. C'est que selon, alors on peut dire le niveau de diplôme, le niveau de revenu, la classe sociale, bon, tout ça est quand même très lié. Mais c'est pas la même personne du ménage qui a l'expérience de l'administration, et c'est quand même important de l'avoir. Alors ensuite, une des choses importantes, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand on a un désaccord avec l'administration. Et c'est une question qu'on a posée. Est-ce que vous avez eu un désaccord avec l'administration fiscale? Donc là, il y a une très forte variation. Je me rends compte que les couleurs sont très mal choisies parce qu'on ne voit pas bien. Mais que quand même... D'abord, la taille des rectangles, c'est la part de ceux qui ont eu un désaccord en pourcentage. Donc on voit que ceux qui ont le plus de désaccords, c'est les classes moyennes, où on est à 40% des contribuables de classe moyenne qui ont eu un désaccord avec l'administration fiscale. Pour les classes populaires, on tombe là autour de 28%. Et pour les classes supérieures, on est à quelque chose comme 34%. Voilà, donc ça, c'est la taille des rectangles. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est les couleurs. Donc la couleur verte, c'est vous avez accepté la décision sans la contester. Celle qui vient après, la couleur bleue, c'est vous avez contesté la décision, mais elle a été maintenue. Et la couleur violette, vous avez contesté la décision et obtenu satisfaction. Et on voit évidemment là que la probabilité d'obtenir satisfaction, elle monte au fur et à mesure qu'on grimpe dans la hiérarchie sociale. Et ça a des effets, en fait. Alors là, c'est un résultat statistique un peu désincarné. Mais ensuite, voilà, on pourrait l'illustrer par des exemples d'échanges au guichet, des fois assez vert dans le langage utilisé sur le thème de un peu ce qu'on entend dans la mobilisation actuelle. C'est évidemment on peut rien faire, évidemment c'est le pot de terre contre le pot de fer, évidemment c'est toujours les petits contre les gros, évidemment c'est nous que vous écrasez, enfin, etc., etc. Voilà, ça s'incarne, enfin ça peut s'incarner dans des observations au guichet, mais ça se mesure statistiquement par ce questionnaire. Alors si on monte un peu, si on regarde un peu justement du côté des classes moyennes, ce qui est intéressant, alors parce que notamment c'est intéressant de se pencher sur les classes moyennes parce qu'il y a tout un discours sur les classes moyennes qui consiste à dire, je pense, alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais sur le fait que on a des enquêtes qui montrent que la conscience de classe d'abord recule en France et que beaucoup de gens s'identifient à la classe moyenne. Beaucoup plus, on est sur des taux assez, assez délirants, de 70-80% de gens qui pensent qu'ils appartiennent aux classes moyennes. Et donc, évidemment, on a tout un discours politique sur ben, « moi, je suis le candidat des classes moyennes, je suis pour la défense des classes moyennes, je suis pour que l'impôt arrête de cogner sur les classes moyennes ». Là encore, on nous dit que c'est les classes moyennes qui n'en peuvent plus, etc. Donc voilà, donc c'est un groupe qui est intéressant. Et à ma surprise, en fait, c'est pas... Si on compare avec les classes populaires, enfin ça c'était une forme de surprise. C'est pas celui qui est le plus virulent, le plus exaspéré par rapport au niveau de prélèvement. Et alors une des choses que j'avance, c'est que une des explications que j'avance, c'est que c'est précisé. Enfin, une explication vient du fait que précisément de l'expérience avec l'administration et notamment. Alors la pratique qu'on a. Alors là j'ai mis la différence. Qui apparaît par le biais de la différence entre les classes moyennes du privé et les classes moyennes du public, où on voit déjà que, et là aussi c'était une source de surprise, c'est que les classes moyennes du public sont beaucoup plus scrupuleuses dans la déclaration d'impôts et d'une certaine manière font moins confiance à l'administration ou à leur déclaration d'impôts parce qu'ils... Vous voyez que les classes moyennes du privé sont 24% à l'avoir signé sans la modifier, alors que les classes moyennes du public sont 19%. Vous avez vérifié les montants mentionnés, là aussi, en fait, hein, les classes moyennes du public, les gens du public. Et en fait, on a aussi ces écarts-là, mais ils sont peut-être moins importants, mais sur France Antilles, enfin, si on fait juste gens du public, gens du privé, 63%. Et puis, vous avez ajouté des éléments susceptibles de faire baisser votre imposition. Et là, c'est beaucoup plus les gens du public... Qui ont essayé de faire baisser l'imposition. Et donc là aussi, c'est contre-intuitif par rapport à une idée d'économiste qui consisterait à dire, et qui traîne dans pas mal d'études sur l'impôt, en fait, les fonctionnaires, ils aiment bien l'impôt parce qu'ils ils ont intérêt. Évidemment, c'est ça qui les paye. Et donc, ils sont très confiants, très apaisés, etc. On voit qu'en fait, quand on interroge sur les pratiques et sur ce que font les gens, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'essaye d'expliquer ça alors pour avoir pas mal d'entretiens, mais notamment par le fait que, justement, cette connaissance intime de l'État... du fait qu'on est fonctionnaire et incite plutôt à être extrêmement vigilant sur ce qu'on nous demande et sur ce qu'on nous demande de faire. Voilà, c'est une explication parmi d'autres et là aussi ça peut être étayé par des entretiens. Et puis un autre point très très important qui là est indifférent à la position sociale, on pourrait dire, hein, c'est la question des défiscalisations. Des possibilités d'arrangement avec l'impôt, de réduction de l'impôt. Donc là, on en avait listé un certain nombre. On ne peut pas les lister toutes, mais on avait listé les principales, c'est-à-dire dons aux associations, investissement immobilier, emploi à domicile, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Économie d'énergie. Et on avait demandé, est-ce que vous avez... là aussi, c'est une question de pratique, d'une certaine manière. Est-ce que vous avez bénéficié d'un de ces dispositifs de réduction de l'impôt ? Et ce qu'on voit, c'est que quand on reprend la question de tout à l'heure, est-ce que vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec l'idée qu'on paye trop d'impôts en France ? Ben en fait, plus on bénéficie de motifs de défiscalisation, de motifs de réduction d'impôts, et plus on a tendance à dire que finalement les impôts ne sont pas si élevés que ça. Donc il y a une espèce d'acceptation négociée, d'acceptation par arrangement qui est très forte, et qui est en fait très forte dans l'acceptation relative des classes moyennes de l'impôt, parce que ça s'accompagne aussi de cette idée de bonne volonté écologique. On fait quelque chose de bien, on change ses fenêtres, on fait de l'économie d'énergie, puis en même temps, on récupère de l'impôt. Donc c'est gagnant-gagnant, etc. Donc il y a un côté comme ça très contractuel dans ces réductions. Bon, alors après, là, je vais passer un peu vite, mais en renvoyant vers l'ouvrage, mais quand même, c'est pour les plus... féru de statistiques. J'ai fait une régression logistique parce que tout ça, en fait, c'est beaucoup de causalité, mais la question, c'est comment ça interagit, etc. Donc, On aime bien faire des régressions logistiques pour raisonner, entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, même s'il y a un côté un peu évidemment fictif dans le raisonnement. Mais c'est quand même intéressant de voir quelles sont les variables qui ressortent, y compris quand on met une variable qui serait susceptible d'écraser tout, c'est la variable d'orientation politique. Parce que si vous avez une variable qui est centrale, et comme celle-là, par exemple, qui reste quand même assez importante, elle peut, du coup, écraser tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est précisément de voir quelles sont les variables qui ressortent, c'est-à-dire qui restent significatives dans le modèle. Donc, en fait, homme-femme, c'est, du coup, ça ne l'est plus. On voit que les odds ratios, c'est la dernière colonne. Les classes populaires, c'est 1,4. C'est-à-dire, toutes choses égales par ailleurs, les classes populaires ont 1,4 fois plus de chances de trouver qu'on paye trop d'impôts en France. On retrouve le résultat tout à l'heure, mais simplement qu'on a d'une certaine manière relativisé avec tous les autres critères. Quand on est faiblement diplômé avec un BEP, on a 1,3 fois plus de chances, là aussi, de trouver qu'on paye trop d'impôts. Quand on est de gauche, on a plutôt moins de chances de le trouver. Quand on est de droite, plus de chances. Ça, on n'est pas surpris. Mais on trouve encore un effet résiduel sur le fait d'être rural, habiter en zone rurale, 1,3 fois plus de chances. Le fait d'être dans une ville de 20 000 habitants, 1,4 fois plus de chances. Voilà. Et ces questions de pratique qui pourraient apparaître comme résiduelles, en fait, ne le sont pas du tout. On voit que le fait d'avoir défiscalisé, là aussi, ça reste un élément très significatif, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire une fois qu'on a pris en compte toutes les variables, et le fait d'avoir eu un désaccord avec l'administration fiscale, là aussi, reste très significatif, toutes choses égales par ailleurs, donc avec des taux de significativité très importants. Voilà, je passe à la troisième partie, ça tombe bien parce qu'il faut que j'accélère. Mais ça va aller. Mais sur la dernière partie, elle est un peu plus déprimante, hein, je préviens tout de suite. Sur les ambiguïtés de l'attachement à l'État, c'est compliqué cette affaire d'attachement à l'État parce que, évidemment, c'est très polysémique comme expression. C'est finalement pour ça que je l'ai retenu pour le titre. C'était que d'abord, je voulais pas un titre où il y avait que la résistance à l'impôt, parce que là, c'était vraiment un peu déprimant quand même. Et qu'il y a quand même autre chose dans cette affaire-là qui est quand même un rapport à l'État, un rapport au service public. Et que dans les entretiens et dans pas mal de résultats, ce qui apparaît, c'est un rapport à l'État, en fait, comment dire, ambigu, dual, je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, une exaspération très forte sur les et on le voit très clairement dans le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est-à-dire une exaspération très forte sur les dépenses inutiles de l'État, les dépenses somptuaires de l'État. C'est dans les entretiens, ça apparaît sous forme voilà, les gouvernants qui habitent dans des immeubles de pierre de taille, qui se payent des boîtes de cigares, parce qu'il y avait eu cette affaire du ministre avec les boîtes de cigares. Voilà, là, plus récemment, on a... alors, c'est sorti du... C'est pas dans le livre, parce que c'est plus récent, mais de fait, comme je continue à avoir des étudiants qui travaillent là-dessus, je peux actualiser. Hein, c'est la porcelaine de l'Élysée, vous vous rendez compte. Bon, voilà, qui sont, en fait, des dépenses, qui sont quand même assez epsilonesques par rapport, évidemment, aux grosses masses des dépenses de l'État, quand on pense à certaines dépenses fiscales, au CICE, voilà. Mais c'est ce qui marque... Et ce qui nourrit une forme d'exaspération à l'égard de l'État, mais sur un segment très particulier que sont la question des gouvernants et de leurs dépenses inutiles, fastueuses. Et puis, il y a un attachement à certaines fonctions de l'État et à certains services. Et là, ce que j'ai essayé de faire, bon, c'est un peu... comment dire ? C'est un peu brutal, mais... Je pense que ça dit des choses quand même. C'est que j'ai repris une enquête de 1970 où on posait la question, pour vous, quelles sont les trois fonctions de l'État que vous considérez comme les plus importantes ? Et je me suis forcé à garder la même liste, qui est une liste imparfaite, qui est une liste discutable. Donc, vous ne devez pas voir là, mais je veux dire, c'est protéger contre les risques sociaux, assurer l'ordre public, assurer le bon fonctionnement de l'économie, assurer la défense du pays, s'occuper de l'éducation nationale, prévoir les besoins du pays et préparer les solutions, rendre la justice, défendre les catégories sociales défavorisées, s'occuper des problèmes internationaux. Bon, moi, je n'aurais pas du tout rédigé comme ça, je n'aurais pas du tout fait comme ça, mais l'intérêt de reprendre cette liste, c'est de pouvoir comparer entre 1970 et 2017. Donc, en bleu foncé, je vous ai mis 1970. Et en bleu clair, je vous ai mis, 2017. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un très fort attachement, et ça, ça correspond aussi aux entretiens, ça correspond à d'autres enquêtes qu'on a, il y a un très fort attachement au modèle social, au modèle de protection sociale, au rôle de protection sociale. Ça, c'est très important parce que, notamment par rapport à des économistes un peu libéraux qui ont tendance justement à dire « mais en fait, les gens ont marre de l'impôt à cause d'autres prélèvements obligatoires », le problème qui se pose et qui va se poser là, c'est qu'une bonne partie du taux de prélèvement obligatoire, il est constitué de ce qu'on appelle entre guillemets les dépenses sociales, et précisément à financer ce modèle de protection sociale. Or, les contribuables sont extrêmement attachés. Ils l'étaient dans les années 70, ils le sont encore aujourd'hui, c'est une constante, c'est la première fonction qui est citée, c'est la question de la protection sociale. Une des choses qui ont le plus évolué, le plus progressé, alors évidemment, il y a un effet de contexte, 2017, c'est évidemment, c'est 2015, c'est les attentats, c'est évident que dans les questions qu'on a posées sur le rapport à la... Par ailleurs, dans le questionnaire, on pose des questions sur le rapport à la police, etc. C'est évident que sur une question comme ça, cet effet de contexte pèse sur le questionnaire. On en a conscience, mais en même temps, c'est comme ça. Et c'est un effet de contexte, par ailleurs, qui risque de durer un peu. Donc autant l'entériner et dire qu'il existe. Mais on voit que la fonction « assurer l'ordre public » a pas mal progressé. Elle approche maintenant les 40%. La question « assurer la défense du pays », elle frise les 40%. Et donc, si on met les métiers d'ordre, en gros, les fonctions d'ordre... Alors, il faudrait enlever « rendre la justice », pour le coup, parce que ça progresse un peu, mais dans des proportions bien moindres. Mais en tout cas, ça correspond aussi à des questions qu'on a posées sur la confiance dans les institutions. Là, je ne l'ai pas présenté, mais c'est une partie de l'enquête aussi. Sur le rapport aux institutions, c'est l'institution, contrairement à ce que disent les jeunes qui manifestent, et quand ils disent « tout le monde déteste la police », en fait, l'institution dans laquelle on a le plus confiance, c'est l'institution policière. Enfin, quand on pose la question sur la police, la gendarmerie, et notamment dans les classes populaires, il y a une très forte confiance, un très fort attachement à la police. Là, pour recoller sur le mouvement actuel, pour donner un peu une coloration, comment dire, contemporaine à ces statistiques qui datent de 2017 et qui peuvent paraître très anciennes. En fait, moi, j'ai pas été très étonné, par exemple, de voir que dans les gens qui sont mobilisés, y a beaucoup de petits indépendants, beaucoup d'employés, d'ouvriers, zones rurales, périurbaines. Bon, tout ça fait écho pas mal à l'enquête. Et sur les barrages, il y a une bonne entente quand même avec les policiers. Ça se fait en bonne intelligence. Il y a des accidents, c'est sûr. C'est plus des automobilistes qui foncent dans les policiers ou qui foncent dans les gilets jaunes. Mais je veux dire, entre les gens qui organisent les barrages, et ça correspond complètement à ce rapport de proximité qui s'est instauré. Alors, est-ce qu'il est ancien ou pas? J'ai pas tout à fait des moyens de le dire. Mais en tout cas, qui est très fort dans l'enquête, de très forte confiance des classes populaires à l'égard de la police, des forces de l'ordre, des métiers d'ordre. Alors, c'est défendre les catégories sociales défavorisées, hein, ou cette fonction-là, elle était autour de 40% en 1970, et là, elle chute à 13%, quoi. Donc ça, c'est un peu... ça dit quelque chose de l'évolution. Alors on pourrait l'expliquer aussi, hein, sur tout le discours sur l'assistanat, qui a évidemment beaucoup progressé dans le débat public et qui a évidemment des effets sur cette question-là. Et puis quand même, alors pour ne pas terminer sur une note complètement négative, l'éducation nationale, où... Alors, s'occuper de l'éducation nationale, on était à 28% en 70, et là, on grimpe autour de 38. Bon, alors, voilà. Est-ce que c'est une forte, confiance, ou en tout cas, un fort souci que l'État prenne en charge l'éducation nationale, parce que, précisément, c'est la seule perspective de promotion, promotion sociale, d'éviter la reproduction, ça, c'est la vision positive. Il y a une vision, peut-être... Voilà, un peu plus à relativiser, qui est que 1970, on est très proche de 68, et qu'on est dans une humeur quand même assez anti-institutionnelle, anti-institution, anti-école, et donc on peut avoir aussi cet effet-là, parce qu'il y a des effets de contexte aujourd'hui, il y en avait aussi en 70. Donc voilà, bon, c'est un peu les deux, mais c'est quand même à noter que dans ce tableau-là, la prise en charge par l'État de l'éducation nationale est quand même quelque chose d'important. Avant-dernière slide. C'est une hypothèse assez importante que j'ai essayé d'avancer dans le dernier chapitre pour essayer de comprendre cette exaspération à l'égard de l'impôt que j'essaye de présenter un peu sous forme de paradoxe, c'est-à-dire comment se fait-il que, alors qu'on est quand même dans un système, si on compare à d'autres pays, qui est extrêmement redistributif, où on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est très élevé et en même temps contribue encore, même s'il le fait moins que par le passé, il contribue encore à fortement réduire les inégalités. Comment se fait-il finalement que, alors quel que soit l'indicateur qu'on prenne, encore une fois, si on n'aime pas les classes sociales, on peut prendre l'indicateur du diplôme ou l'indicateur des revenus, mais comment se fait-il que ceux du bas de l'échelle sociale soient à ce point exaspérés par l'impôt, qui reste quand même un instrument de redistribution très fort dans la société française, en tout cas. Je ne sais, on pourrait dire autre chose peut-être sur d'autres contextes, mais en tout cas dans la société française. Et une autre explication qu'on peut apporter, c'est ce que j'appelle l'État souterrain, c'est-à-dire le fait qu'on a en France un certain nombre d'actions de l'État qui sont financées par l'argent public, qui sont financées par l'impôt, mais qui n'apparaissent pas en tant que telles, qui ne sont pas visibles en tant que telles, y compris par leurs bénéficiaires directs. Et donc là, j'ai fait quelque chose qui est peut-être discutable un peu méthodologiquement, mais ça m'intéressait de le faire, qui consiste à faire la chose suivante, c'est que dans le questionnaire, il y a un moment où on demande « Est-ce que vous bénéficiez de... » Ça, c'est dans l'échantillon maître. « Est-ce que vous bénéficiez d'une prestation liée à la maladie ? Est-ce que vous bénéficiez d'une prestation familiale ? Est-ce que vous bénéficiez d'une aide au logement ? Est-ce que vous bénéficiez du RSA ? Enfin, est-ce que quelqu'un dans le ménage bénéficie de... c'est comme ça qu'est libellée la question dans l'échantillon maître. Et dans notre questionnaire, on a dit « Est-ce que vous avez le sentiment d'être aidé par l'État ?» Et on voit que... Et ensuite, on essaye de regarder, en fonction de ceux qui ont touché... qui disent avoir touché la prestation, quels sont ceux qui ont conscience d'être aidés par l'État. Et on peut faire apparaître, à travers la zone grisée, en fait, c'est-à-dire ceux qui affirment ne pas avoir bénéficié d'une aide de l'État alors qu'en fait, ils ont touché une prestation, ce que l'on pourrait appeler l'État souterrain, c'est-à-dire justement toute cette part de gens qui considèrent qu'ils ne sont pas aidés par l'État alors qu'ils touchent des prestations qui sont des prestations qui sont garanties par ce modèle, ce système fiscal de redistribution. Et donc voilà. Et donc on voit que c'est très élevé. Que l'État souterrain, il est particulièrement élevé sur les prestations familiales. Alors là, j'ai mis entre parenthèses les effectifs, parce que c'est des effectifs qui sont pas très élevés. C'est pour ça que méthodologiquement, c'est un peu discutable. Bon, là, il y en a quand même 620. Là, il y en a 157. Et que ce qui est très frappant, c'est que ceux qui ont le plus conscience d'être aidés par l'État, c'est ceux qui ont bénéficié du RSA. C'est-à-dire, c'est vraiment d'une certaine manière, cette prestation en particulier, sur l'aide au logement, il y a quand même une part significative de gens qui n'ont pas conscience. Alors on pourrait le faire sur d'autres choses. Là, je l'ai fait sur les prestations. On pourrait le faire sur... ça apparaît très bien dans les entretiens, sur l'école privée, sur le fait que beaucoup de gens n'ont pas conscience que l'école privée est quasi totalement financée par... je ne vous apprends rien, mais c'est quand même important de le souligner. C'est que quand on fait des entretiens, de se rendre compte que... y compris quand des gens ont leurs enfants dans l'école privée, etc., et qu'ils payent, ils payent la cantine, ils payent y a des choses, un peu plus quand c'est des écoles très sélectives et très chères, mais globalement, quand même, pour les écoles sous contrat, c'est quand même essentiellement financé par l'État. Et là aussi, c'est un exemple, on pourrait en prendre plein, en fait, mais ce que j'ai appelé l'État souterrain, voilà. Et là, je l'ai rendu. Bon, à la fin, j'ai fait une analyse factorielle pour ne pas faire que des régressions, où j'ai essayé de mettre, disons, sur le graphique, des variables en variables actives, en fait, toutes les questions sur l'impôt. Et puis ensuite, j'ai essayé de projeter les variables de classe sociale. Et alors, en gros, c'est pas cette feuille-là. Mais on va voir sur le... En gros, on voit que on a une opposition... Alors, est-ce qu'on voit bien, là ? Entre... ici, sur le bas du tableau, on a en fait les classes. Enfin, on a une opposition entre des représentations et des pratiques, en fait, justement. Et c'est ça qui est intéressant dans cette analyse factorielle, c'est qu'on va retrouver, on va reboucler avec nos deux dimensions. Ici, on a les classes populaires, les diplômes CAP-BEP, qui trouvent que la TVA est injuste, que la CSG est injuste, qu'il y a trop de taxes, que l'impôt sur le revenu est injuste, et donc. Voilà, on a cet axe vertical où on a à la fois, les classes populaires qui trouvent que l'impôt est injuste, et en haut, la CSG est juste, trop de taxes, non. Là, on a les classes supérieures, là, on a les bac plus 3, etc., etc. Bon, cet axe-là. Et sur cet axe-là, en fait, on a un autre axe, en fait, hein, qui est plus de l'ordre de... Enfin, à la fois des pratiques et des connaissances, mais où... Là, le fait qu'on n'a pas eu de désaccord avec le fisc, et là, on a eu un désaccord avec le fisc, et là, on a l'appartenance politique, le fait d'être à droite, là, le fait d'avoir été... de ne pas avoir eu de... oui, c'est ça, de pas... Là, c'est de ne pas avoir eu de désaccord avec le fisc, et... d'avoir eu une aide de l'État. Voilà, en gros, on a un deuxième axe horizontal qui est essentiellement, enfin, qui oppose, disons, des questions de pratique et en partie des questions de connaissance à l'impôt, parce que j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est aussi, sur cet axe-là, on a aussi, en fait, ceux qui connaissent mal l'impôt. Alors, pour connaître l'impôt, on a posé une question, j'en ai pas parlé, j'ai pas du tout parlé de cette dimension-là, mais on pourra en reparler dans la discussion. Au lieu de demander aux gens, est-ce que vous connaissez l'impôt, on a demandé aux gens, est-ce que vous pensez que l'impôt sur le revenu, il est proportionnel ou progressif ? Est-ce que vous pensez que la CSG, elle est proportionnelle ou progressive ? Est-ce que vous pensez que la TVA, elle est proportionnelle ou progressive ? Ou est-ce que vous ne savez pas ? Et ensuite, on a recodé, en fait, en fonction de cette question, on a créé un indicateur en fonction de cette question pour créer un indicateur de compétences fiscales. Voilà. J'arrive au bout, à la conclusion de tout ça. Et voilà. Alors, une des conclusions importantes du livre, c'est de souligner le fait que... Une partie, alors évidemment c'est pas toutes les différences sociales et évidemment ça reste partiel, mais qu'une partie des questions de différences sociales dans le débat public, mais pas seulement, enfin y compris dans la vie quotidienne et dans les représentations politiques, se joue autour des questions fiscales. Alors je vais pas jusqu'à dire que la question fiscale recompose les différences sociales, mais quand même que c'est une question qui est devenue centrale dans la manière de penser les inégalités. Il y a plusieurs manières de l'expliquer. En tout cas, au terme de cette enquête, ça apparaît de façon très forte. Et une des manières de l'expliquer, c'est aussi lié à une évolution... l'État et les gouvernants successifs ont beaucoup fait pour remettre au centre cette question fiscale. Et que pendant très longtemps, la question des inégalités, elle était pensée... sous l'angle du partage de la valeur ajoutée, de la question des revenus primaires, de la répartition, du partage du gâteau, hein, le partage des bénéfices, pour reprendre le titre d'un livre de référence. Et avec le chômage de masse, avec la mondialisation, je ne vais pas refaire le topo, je pense que vous l'avez tous en tête, mais tout ça, évidemment, pèse. On a, petit à petit, les gouvernants ont totalement renoncé, en fait, à se saisir de cette question des revenus, de la répartition des revenus primaires, etc. Et que cette contrainte-là a aussi été intériorisée par les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de revendications salariales et de plus en plus, évidemment, toutes les revendications se sont repliées sur la question de l'emploi, le fait d'en avoir ou pas, contre les délocalisations, contre les fermetures de boîtes, etc. etc. Et ça, ça pèse, évidemment... puisque pour déplacer la question sociale vers la question fiscale, en fait. Et finalement, la question fiscale devient un des derniers leviers de l'État. Et du même coup, les contribuables, les populations, ça a fini par avoir de l'effet aussi sur la manière de se représenter sa place dans la société, évidemment. Et là, je peux prendre juste des exemples extrêmement parlants, mais les trois dernières campagnes présidentielles, en fait, on peut dire, où on a des candidats qui ont essayé et réussi, en fait, à rallier les classes populaires sur un mot d'ordre fiscal. Si on prend Nicolas Sarkozy en 2007, et en fait un mot d'ordre qui a été extrêmement puissant et extrêmement déterminant, c'est la détaxation des heures supplémentaires, enfin, la défiscalisation des heures supplémentaires, le travailler plus pour gagner plus, avec en plus le travail très important, enfin une valeur centrale dans les classes populaires, etc. Mais c'était quand même, toute l'astuce du truc, c'est que c'était à la fois centré sur le travail, mais en faire une mesure fiscale, la détaxation des heures supplémentaires pour revaloriser le travail, mais c'était quand même au départ une mesure fiscale. François Hollande, 2012, les 75%, truc un peu bancal, censuré par le Conseil constitutionnel, mais quand même, qui a, pour certains, alors c'est difficile à dire dans une campagne, qu'est-ce qui fait basculer ou pas, mais n'empêche que ça a joué un rôle, c'est évident, cette question de la taxe 75% sur les revenus de plus de 1 million, enfin, vous souvenez, même si ça n'a pas eu d'effet, encore une fois, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Tout le monde a dit, en fait, finalement, c'était pas bien, etc. N'empêche que dans la dynamique de la campagne, ça a été très important. Et puis, notre président actuel, évidemment, Emmanuel Macron, la suppression de la taxe d'habitation, qui, là aussi, pour un président qui était vu comme banquier, président des riches, et tout, évidemment, la promesse de la suppression de la taxe d'habitation, c'était une manière d'équilibrer. Donc on voit... Enfin voilà, c'est une manière d'illustrer... Enfin il y a plusieurs façons d'éclairer cette même chose, mais on voit que... je reviens au premier chapitre, qui s'appelle « De la question sociale à la question fiscale ». C'est un peu forcer le trait, mais bon, quand même... pour essayer de convaincre mes collègues sociologues de travailler sur l'impôt, parce que sinon je me sens un peu évidemment seul. voilà. L'autre résultat important, c'est l'attachement aux services publics, aux fonctions de l'État, même si c'est des fonctions bien particulières, je l'ai dit. Ça, je pense que c'est un enjeu, parce que sinon, évidemment, on peut lire le mouvement actuel, évidemment, comme juste il y a trop d'impôts, c'est le taux de prélèvement obligatoire. Hein, voilà, il y a trop d'impôts, les gens en ont ras-le-bol, donc il faut réduire les dépenses de l'État et puis réduire les impôts. Et puis voilà, on revient à Reagan 1980 et allons-y. Un enjeu très fort, en fait, à rendre visible l'usage de l'argent public, en fait. Hein. Tout l'ouvrage se termine, en fait, sur la nécessité de faire de la pédagogie autour de l'impôt, parce que ce qui est frappant dans cette enquête aussi, c'est la distance et la méconnaissance. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même très central. Hein. C'est là, pour le coup, là aussi, si on est fâché avec les classes sociales, on peut très bien prendre la variable diplôme et voir à quel point cette variable diplôme, elle est complètement discriminante et déterminante dans le rapport à l'impôt. Et que plus on grimpe dans la hiérarchie des diplômes, et plus on a conscience de ce que finance l'impôt et de ce qui rend possible, on a aussi conscience des façons d'apprivoiser l'État, ses institutions, hein, de les domestiquer, de faire valoir ses droits, etc., etc. Et donc, évidemment, il y a un enjeu à rendre accessible cette visibilité de l'argent, enfin cette invisibilité de l'argent public, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais en tout cas pour les classes populaires. Et puis, toute la question, c'est de redonner un contenu positif, en fait, à l'impôt. Hein. Alors, contenu positif, c'est un peu compliqué en période d'injustice fiscale où, en fait, depuis la fin de l'enquête, il a échappé à personne que, on a un président qui a commencé par supprimer l'impôt sur la fortune, ensuite... Il a remis en prélèvement proportionnel les revenus du capital, arrive ce qui arrive, comment casser en fait cette espèce de dynamique de à la fois de fragmentation de la société et de mobilisation générale contre l'impôt. Évidemment, c'est la question de la visibilité des investissements publics, et puis s'accrocher aussi sur des objectifs de société qui peuvent être pris en charge par les prélèvements, donc et auxquels sont attachés en fait les contribuables, le système de protection sociale, le système d'enseignement, et puis la question de l'environnement. Alors, il se trouve que vous pouvez vérifier l'avant-dernière phrase du livre. Je vais frimer un peu quand même. L'échec cinglant de l'écotaxe en France montre qu'une fiscalité écologique qui ne tiendrait pas compte des inégalités sociales et territoriales a peu de chances d'être acceptée durablement. Voilà. je me souviens même plus, c'est un journaliste qui m'a fait remarquer que j'avais écrit cette phrase, mais c'est vrai que bon, elle est assez adaptée à la période actuelle. C'est que la question, enfin, contrairement à ce qui a beaucoup été dit, beaucoup de gens qui sont mobilisés, ça j'en suis convaincu parce que ils ressemblent quand même beaucoup à des gens que j'ai rencontrés, sont pas mobilisés contre l'environnement ou sont pas du tout insensibles aux questions environnementales, de sécurité alimentaire, de préservation de l'environnement, de la couche d'ozone, etc., etc. Simplement, il y a une telle sentiment d'injustice et d'injustice sociale et fiscale que cette question-là est provisoirement relégué. Si on met évidemment en plus le fait que si on ajoute le fait qu'il n'y a pas de visibilité de l'usage de l'argent pour cette transition écologique et que du coup l'écologie apparaît comme un prétexte pour vider les poches des automobilistes, on a en fait tous les ingrédients pour la crise actuelle. Mais je pense que évidemment c'est typiquement la question de l'environnement, une question alors au-delà évidemment de la question des carburants, mais qui nécessite d'être forcément prise en charge par la puissance publique et donc forcément financée par des prélèvements, parce que on voit bien que quand elle est déléguée au privé ou aux entreprises, le rêve que les entreprises vont prendre en charge cette question de protection de l'environnement, en fait, pour l'instant, reste très, très abstrait et irréel. Voilà, merci beaucoup. Merci.